L'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. L'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. C'est une parole d'un dénommé philosophe français, Jean-Jacques Rousseau. Mais il n'y a rien de plus loin de la vérité. Selon la bonne parole de Dieu ce matin, c'est pas vrai du tout ce que dit M. Rousseau. Tournons dans nos Bibles, s'il vous plaît, dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, les versets 9 à 20. Romains, chapitre 3, les versets 9 à 20. Où l'apôtre Paul arrive à l'apogée, son point culminant de son argumentaire. Avant de présenter la bonne nouvelle, il faut d'abord bien diagnostiquer la cause de la maladie, la cause du problème. Le mécanicien ne commence pas seulement à changer des pièces sur ta voiture. Il doit d'abord déterminer d'où vient le problème. Le médecin, avant de prescrire un médicament, avant de prescrire un traitement, doit d'abord s'assurer d'avoir éliminé les possibilités pour trouver quelle est la solution. Ici, l'apôtre Paul prend un vocabulaire judiciaire. Ça, on a des allures ici d'une affaire judiciaire devant la Cour suprême des cieux. C'est pas la Cour suprême du Canada, non, non. Ici, c'est la Cour suprême des Cours suprêmes. Paul emploie un vocabulaire juridique. Le juge ici, c'est l'honorable Père Céleste. Le Fils et l'Esprit Saint, le Dieu Trinitaire est le juge ici. L'avocat de la couronne, c'est aussi Dieu. Dieu est l'avocat de la couronne. Au banc des accusés se trouve l'humanité tout entière, vous et moi inclus. En fait, on parle de chaque être humain, individuellement. Oui, collectivement, oui, l'humanité entière a péché, mais individuellement, nous avons péché. Et un jour, on va être, la Bible dit qu'un jour, on va se présenter devant notre Créateur individuellement. Chacun devra rendre compte pour lui-même. Ici, il n'y a pas d'avocat de la défense. Il n'y a pas d'avocat de la défense parce que on est présenté seul devant Dieu. Personne ne va être là pour me défendre. Sans Christ, bien sûr. L'apôtre Paul, ici, dans Romains chapitre 3, les versets 9 à 20, est le journaliste juridique ou le chroniqueur judiciaire. Son travail, c'est de rapporter ce qui se passe dans la Cour suprême des cieux. Et l'argument de l'apôtre Paul est simple. L'humanité entière est coupable d'avoir transgressé la loi de Dieu. L'humanité entière est coupable d'avoir transgressé la loi de Dieu. Oui, on est dans la mauvaise nouvelle. Il faut revenir dans 2 semaines si vous voulez entendre la bonne nouvelle. J'espère que vous allez être avec nous dans 2 semaines pour entendre la bonne nouvelle. Parce que oui, il y a une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle vient par la suite. Peut-être que vous allez la lire durant la semaine. Hein? Peut-être cet après-midi même. Lisons ensemble. Romains 3, versets 9 à 20. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, jamais de la vie. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Merci pour ta parole qui sert d'encouragement, d'enseignement. Ta parole qui nous corrige et nous reprend et qui nous redirige vers toi. Oui, Seigneur, ce matin, nos cœurs s'inclinent devant toi et nous reconnaissons ta sainteté. Seigneur Jésus, bénis ta parole dans nos cœurs. Donne-nous la compréhension afin que nous puissions vivre étant transformés par ton esprit. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. L'idée de cette section, je l'ai déjà mentionnée, c'est que l'humanité entière est coupable d'avoir transgressé la loi de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous le passage en trois points, trois éléments qui nous aident à suivre la structure du passage. D'abord, au verset 9, nous avons la mise en accusation ou le réquisitoire, si on parle de termes techniques judiciaires, la mise en accusation, verset 9. Deuxièmement, dans les versets 10 à 18, les éléments de preuve. Le Seigneur va présenter ici par son serviteur les éléments de preuve dans les versets 10 à 18. Et finalement, dans les versets 19 à 20, la condamnation ou le verdict final dans les versets 19 et 20. D'abord au verset 9, la mise en accusation. Le « quoi donc » ici est une espèce de résumé, est un rappel que Paul fait un récapitulatif, la synthèse ici, où il veut tirer le filet. Ça fait déjà plusieurs chapitres que Paul présente la mauvaise nouvelle de l'humanité. Si vous êtes dans votre Bible, vous pouvez juste tourner la page précédente au verset 18 du chapitre 1er. On voit d'abord la première section où les païens sont coupables, où ils ont rejeté de la révélation de Dieu dans la nature. La nature même nous parle du Créateur. Ce qu'on voit autour de nous, nous démontre, devrait amener à la question « Qui a fait tout cela? » La nature parle du Créateur. Ils ont poursuivi, les païens, une vie d'idolâtrie, une vie de dégradation. Ils méritent, Romains 1, verset 18, la colère de Dieu. Mais non seulement les païens, non seulement les Grecs ici sont des synonymes, mais ici, c'est les Juifs aussi sont coupables. Vous êtes dans votre Bible, à la page précédente, vous voyez Romains 2, 1 à 16, Romains 2, 17 à 29, Romains 3, verset 1 à 8. Les Juifs, oui, eux aussi sont coupables. Ils sont coupables, les Juifs, même s'ils ont reçu la loi, même s'ils ont reçu la circoncision, les rites religieux, ils ont échoué dans leur pratique, ils ont échoué dans leur vie, même s'ils avaient une position privilégiée, ils ont déshonoré le Seigneur par leur vie. Ainsi, ils prouvent, remarquez au verset 9, Romains 3, verset 9, ils prouvent par leur vie, par leur attitude, ils prouvent cette mise en accusation, le blâme que Dieu a le droit de mettre sur l'humanité. Juif ou grec, juif ou païen, québécois, canadien, nord-américain, vivant sur la planète Terre en 2024, nous sommes tous au banc des accusés. Oui, c'est prouvé. L'accusation, le blâme est fait, la preuve a déjà été faite. que l'humanité entière est sous l'empire du péché, sous l'emprise du péché, littéralement esclave du péché. La mention ici du péché, c'est un élément important dans l'argumentaire de Paul dans la lettre aux Romains, et on va revenir là-dessus parce qu'il y a près de 50 mentions du péché dans la lettre de Paul aux Romains. Il veut, pour présenter la bonne nouvelle, il faut commencer d'abord en mettant l'emphase nécessaire sur la mauvaise nouvelle que l'homme, l'être humain, est sous l'emprise du péché. On est esclave, comme Édouard l'a mentionné, soit du péché ou soit du Seigneur. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre catégorie. Il n'y a pas de position mitoyenne. Soit que Jésus est ton maître, ton Seigneur, et que tu le sers, ou soit que tu es sur le trône, tes péchés, c'est toi qui diriges ta propre vie et tu es sous l'esclavage de ton propre péché. Ici, nous voyons cette mention au singulier du péché, voulant parler de la puissance du péché qui contrôle l'homme depuis la chute d'Adam. C'est pas seulement des péchés, mais on est sous le péché, sous l'emprise du péché dans nos vies. Et on le confirme à chaque fois qu'on fait des péchés, nous confirmons notre nature. Paul ici traite dans l'énoncé le plus clair dans toute la Bible, la doctrine de la dépravation totale. Voici le passage classique qui présente la dépravation totale de l'humanité ou la corruption radicale de l'humanité entière, ou dit autrement, l'incapacité totale pour l'homme de se sauver lui-même. Ça fait partie d'autres doctrines qu'on parle, des doctrines qui sont liées à la réforme, des doctrines qui sont importantes pour nous, des doctrines comme on voit ici, la corruption totale, ça fait partie de d'autres doctrines. Et la semaine prochaine, pour ceux qui vont être à l'école du dimanche avec Roy, vous allez entendre parler aussi de l'élection inconditionnelle, que c'est Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde. On va parler de ça la semaine prochaine dans le passage de Jean 17 avec Roy Rabanal qui va enseigner de l'autre côté à 9h15. Mais l'élection inconditionnelle, la rédemption particulière, la grâce irrésistible, la persévérance des saints, l'évangélisation internationale sont fondées sur la doctrine de la dépravation totale. Si l'homme n'est pas perdu, il n'y a pas besoin de salut. Donc, ça ne donne rien de parler des autres doctrines si on ne parle pas de la dépravation totale, de la perdition de l'homme. Et d'ailleurs, les autres doctrines sont plus belles encore, plus merveilleuses, quand on comprend l'état, la gravité de l'état du cœur de l'homme et de la femme. Et ce que j'aime ici, déjà dans une première question d'application au verset 9, regardez la question de Paul, Romains 3, verset 9, « Sommes-nous plus excellents? » Ici, il y a un questionnement individuel. Facile ici de lire un passage qui parle du péché et de penser aux autres. Mais ici, on devrait d'abord se regarder soi-même. Et l'attitude, le « nous » ici dans Romains 3, verset 9, c'est probablement le « nous » des Romains, de l'Église qui est à Rome, ou par application en 2024, pour nous, Église Emmanuel, sommes-nous plus excellents que quiconque? Sommes-nous plus excellents? Oui, mais je ne fais pas les péchés que d'autres font. Vrai! Mais je fais des péchés que peut-être eux ne font pas. Moi-même, mon cœur aussi est méchant et tortueux par-dessus tout. Mon cœur est dépravé. Mon cœur a besoin de la grâce de Dieu, non seulement du salut, mais aussi de la sanctification journalière qui va me mener jusqu'à mon départ d'ici-bas sur terre. « Sommes-nous plus excellents ici? » apporte la question d'attitude. Quelle est mon attitude par rapport aux autres hommes et femmes qui marchent sur la terre, en particulier pour ceux qui sont perdus. Est-ce qu'on est plus excellent que ceux qui ne sont pas sauvés? La réponse est non. On devrait avoir, il me semble, devant cette affirmation, ce rappel de la colère de Dieu sur l'humanité entière, tous ceux qui ont désobéi à la loi, tous ceux qui pêchent, nous devrions avoir une attitude d'humilité. Nous devrions avoir une attitude d'humilité envers tous. Cela ne veut pas dire d'excuser le péché, mais d'abord de reconnaître mon propre cœur qui est perdu et qui a besoin du salut. Et si ce n'était pas du salut que Dieu a fait dans ma vie, dans mon cœur, qu'il opère les changements dans ma vie, je serais exactement comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'humilité ici, frères et sœurs, devant une doctrine si sérieuse, si importante, l'humilité de reconnaître que nous aussi, nous sommes condamnés, sans Christ, condamnés. Et les éléments de preuve ici, on les voit dans les versets 10 à 18, deuxième point, les éléments de preuve, après la mise en accusation au verset 9, les éléments de preuve se voient dans les versets 10 à 18. On aurait pu prendre plusieurs arguments ici pour démontrer la véracité. L'avocat de la couronne, Dieu aurait pu prendre des éléments assez simples, juste regarder l'histoire de l'humanité. On a juste à regarder l'histoire de l'humanité et ce qu'on voit, c'est guerre, bruit de guerre, conflits, divisions, etc. Facile de prouver dans l'histoire, facile de prouver au niveau de la raison, facile de prouver au niveau de la conscience ou de l'expérience. Mais ici, l'avocat de la couronne prend l'argument le plus fort. L'argument le plus fort, c'est toujours ce que Dieu pense. Ça, c'est l'argument le plus fort. Ça devrait être ce qui détermine, ce qui tranche. Et Paul va directement ici, dans la parole de Dieu, il fait, dépendamment comment tu les comptes, 13 à 14 affirmations ici, des affirmations qui sont tranchantes. On voit deux fois au verset 11 la mention de tous. On voit dans les versets 10, 11 et 12 qu'il n'y a pas, qu'il n'y a aucun, nul, il n'y a point, il n'y en a pas. L'argument ici est un argument tranchant extrême. Tous sont coupables, aucun n'est pas coupable. C'est catégorique, c'est sans équivoque, c'est une évidence irréfutable présentée par le Seigneur lui-même, par l'entremise de son serviteur Paul. C'est le coup de grâce ici, dans l'argument depuis chapitre 1, verset 18, le coup de grâce, c'est Romains 3, verset 9 à 20. Nous voyons ici, dans les versets 10 à 18 du chapitre 2, la plus grande concentration des citations de l'Ancien Testament que Paul va utiliser dans toutes ses lettres. 13 lettres, voici le paquet le plus intense. On est dans la viande ici. Bonne viande. Une bonne viande marinée. Hein? Une bonne viande boucanée, là. Hein? Dans le slow cooker, là. C'est condensé. Là. La condensation est là. Puis ici, les rabbins ici appelaient ça enfiler les perles, un peu comme un collier de perles. Il y a plusieurs perles, puis on les rentre une après l'autre. Une perle, c'est beau, mais imaginez quand on les enfile une après l'autre, on voit le produit fini. Wow! Ici, c'est un peu ce qu'il est en train de faire. Il va citer majoritairement des psaumes. Psaumes, vous les voyez, ceux qui ont, vous avez votre Bible dans la marge, vous voyez les cross-references, les références croisées. Si vous voulez aller voir, peut-être ça serait intéressant, vous allez voir que c'est majoritairement des psaumes qui sont cités avec quelques citations d'Ésaïe ou des proverbes ou de l'Ecclésiaste, tous des livres de sagesse. Et Paul ici, dans cet argumentaire, dans cette mitraillette d'arguments, va démontrer cette liste. Et ça sert à montrer deux choses, je crois, ici. D'abord, que ce ne sont pas les paroles de Paul, ce n'est pas son argumentaire, mais c'est plutôt les paroles que Dieu a données lui-même. Et il y a ici un poids supplémentaire. C'est Paul prend la parole de Dieu pour pointer, pour que l'argument soit encore plus fort. Et deuxièmement, comme on est en train de voir dans le livre de l'Ecclésiaste, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cœur de l'homme, depuis Genèse chapitre 3, hein, les ados ce matin, on parlait de mariage, il a fallu aller parler de la chute. Il est venu bousiller le mariage aux ados, on a parlé de ça ce matin, Genèse 3. Mais Genèse 3, on voit le début du péché. Depuis Genèse 3, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le cycle se répète. Une fois de plus, cette liste démontre que c'est les mêmes accusations qui ont été apportées à ceux qui nous ont précédés il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. C'est les mêmes accusations qui sont toujours valides aujourd'hui en 2024. Et Paul va prendre la rhétorique d'un évangéliste pour nous démontrer que tous ont besoin d'être sauvés. La bonne nouvelle, Romains 3, verset 24. La bonne nouvelle, c'est que tous ont besoin d'être sauvés. Ici, on en a pour toutes les sauces, frères et sœurs. Ce n'est pas que chacun de nous, nous tombons dans chacun de ses péchés. Mais ici, chacun d'entre nous, on devrait se retrouver à quelque part dans la liste de péchés. Cela démontre ici l'universalité du péché chez l'être humain, mais aussi l'étendue du péché dans chaque facette de nos vies, de façon individuelle et de façon corporative. Le corps de Christ ou le regroupement des personnes, les ramifications sont évidentes. Paul va utiliser ici, dans son argumentaire, dans sa mise en accusation, il va faire une autopsie. Une autopsie en démontrant toutes les parties du corps dépravées, toutes les dimensions de la vie qui sont affectées et chaque partie du corps étant engagée dans le péché. Regardez avec moi au verset 11, vous voyez le cerveau, l'intelligence. Regardez ensuite au verset 13 et 14, le gosier qui est l'arrière-gorge, le pharynx, on utilise moins ce mot peut-être aujourd'hui, mais l'arrière-gorge, le pharynx, la langue, les lèvres, la bouche. Voyez cette liste, tous qui ont rapport avec la bouche ou le parler. Au verset 15, les pieds et au verset 18, les yeux. L'argument de Paul, c'est que de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, l'homme est coupable devant Dieu. Et il n'y a pas de juste, verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le thème de la justice est un autre thème important. Plus de parler du péché une cinquantaine de fois, il va parler de la justice une trentaine de fois. Et le verset qu'on devait mémoriser il y a quelques temps de cela, Romains 1, versets 16 et 17, nous rappelle que j'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le thème de la justice est important ici. Paul veut rappeler ce qu'il a déjà dit, que personne n'est capable de se justifier soi-même. Si tu penses pouvoir arriver devant Dieu et négocier avec lui, tu te trompes. Si tu penses que tu peux plaire à Dieu en faisant des bonnes actions, tu te trompes. Si tu penses que tu peux garder le standard de Dieu, eh bien, tu te trompes. Quel est le standard de Dieu? Quel est le standard de Dieu? Jésus a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints, Lévitique 19, verset 2. Soyez saints car je suis saint. » Nous sommes invités à marcher dans la perfection. Et cela est impossible. Personne ne peut faire le bien. Personne ne peut garder la moralité de Dieu, que Dieu s'attend. Oui, on voit des bonnes actions autour de nous. Des fois, il y a quelqu'un qui aide une dame à traverser, il lui donne sa place dans le métro. On peut voir dans l'autobus quelqu'un qui parle avec quelqu'un, qui essaie d'encourager quelqu'un d'autre. Des fois, il y a des bonnes actions, mais ce sont souvent des actions temporaires. Et quelles seraient les motivations? C'est une question qu'on pourrait poser. De toute façon, impossible de garder toute la loi. Le but de la loi n'étant pas de nous sauver, au contraire. On va voir dans quelques instants quel est le but, le rôle de la loi pour nous. On voit d'abord le caractère ici. Dans cette liste, si on faisait trois catégories, on pourrait commencer au verset 11 avec le caractère. Le caractère, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Farley, qui était avec nous dimanche dernier, lorsqu'il a parlé aux ados en haut, il leur a parlé qu'on pêche souvent plus dans nos pensées que dans nos actions. Ça, c'est vraiment bon. J'ai réfléchi à ça parce que mes enfants, on a discuté de ça durant le culte familial cette semaine. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment bon ça. J'ai commencé à penser à mes péchés, puis je dis, c'est vrai que je pêche pas mal plus souvent dans mes pensées. J'ai souvent toutes sortes d'idées dans ma tête qui sont mauvaises, qui viennent de mon cœur, en fait, parce que je suis tenté, attiré, amorcé par ma propre convoitise. Puis la convoitise, ça c'est intérieur, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1, 14 et 15. En effet, ça commence dans l'intelligence, ça commence dans le cœur. Ça commence dans ma volonté, parce que le péché, ça l'a affecté tout, pas seulement mes comportements, mais d'abord ma pensée, mes actions et ma volonté. Toutes sortes de personnes sur la terre, certains qui disent, au verset 11, on voit cette expression, « Nul ne cherche Dieu ». Et il y a toutes sortes de religions dans le monde. Des gens qui cherchent une expérience religieuse. Mais est-ce qu'ils cherchent Dieu réellement? Est-ce qu'on cherche Dieu? Comment chercher Dieu? Qu'est-ce que chercher Dieu? Tous sont égarés, à la fin du verset 11. Tous sont pervertis, c'est-à-dire qu'on a pris le champ et ce n'est pas de façon accidentelle, c'est délibéré. On est débauché ici, c'est l'idée d'être... Que ce soit dans la débauche ou dans la religion, on est perdu. Ce que l'homme fait, c'est vain, c'est inutile. Vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent. On était égarés, nous dit Ésaïe 53, verset 6. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'être humain est dans la perdition et ça commence dans tes pensées, dans ton cœur. Mais ça se manifeste deuxièmement dans ta conversation. Si on veut résumer les versets 13 à 14, on pourrait dire ce qui sort de ta bouche, la conversation. Plutôt que d'adorer et d'honorer Dieu avec ta bouche, bien, l'humanité entière utilise sa bouche pour toutes sortes de choses qui déshonorent Dieu. Le gosier ici est comme un sépulcre ouvert. Littéralement, c'est c'est un tombeau, hein, un corps en décomposition. Vous pouvez vous imaginer, l'image est assez frappante ici. Ta bouche, c'est comme un corps mort qui est en décomposition. C'est comme un sépulcre ouvert. Il y a une raison pour laquelle on enterre, on va fermer le sépulcre, parce que l'odeur est forte. Ici, le langage de l'homme est tellement sale. Ce qui sort de sa bouche, c'est tellement mauvais. Ça pue tellement que... Dieu reconnaît ici, la bouche nous parle de l'abondance du cœur. Il y a un thermomètre. Quand tu écoutes quelqu'un parler, quand tu écoutes son langage, son vocabulaire, mais aussi ses aspirations, ses priorités, comment il parle des autres, comment il vit sa vie, la bouche nous donne le pouls spirituel d'une personne. C'est ce que l'Écriture nous dit. Hein? L'homme tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait que celui qui est méchant, bien, il tire des mauvaises choses de son cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les langues sont trompeuses. On utilise notre bouche plutôt que pour aider les autres, on l'utilise pour tromper les autres, pour manipuler les autres. Dans nos paroles, on dit des demi-vérités. On ne dit pas toute la vérité, ou on présente les choses d'une certaine manière qui n'est pas le reflet de la situation qui s'est vraiment passée. Nos langues sont trompeuses et manipulatrices. Troisièmement, les lèvres ont un venin d'aspic, c'est un poison destructeur et meurtrier. Hodge dit ici que nos lèvres infligent la souffrance et se délectent de la méchanceté. Combien on a pu blesser les autres avec nos paroles? Combien de fois je suis coupable d'avoir blessé d'autres par mes paroles? Soit par inadvertance, mais des fois volontairement, j'ai dit des choses qui ont blessé les autres. J'ai pris des paroles qui ont détruit plutôt que des paroles qui ont été utilisées pour construire. Finalement, quatrième de cette liste dans la conversation, la bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Pouvez-vous imaginer ici l'amertume qui ressort dans des conversations où on rabaisse les autres, où on critique les autres, où on pointe du doigt des autres? Plutôt que de bénir, on va maudire notre prochain, lui aussi, fait à l'image de Dieu. Oui, notre conversation, nos paroles sont un thermomètre spirituel et sont la preuve de notre déchéance et de notre dépravation. Finalement, un troisième C, la conduite dans les versets 15 à 17. On est toujours dans le deuxième point, mais dans le troisième sous-point, la conduite ici. Ils ont les pieds légers, c'est-à-dire rapides, pour répandre le sang. L'être humain, depuis son histoire, est meurtrier dans sa conduite. Il veut détruire les autres pour s'avancer soi-même. La destruction, le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de paix. Le désir de gagner, on en parlait vendredi soir à la cellule de prière, le désir de gagner, d'avoir raison, est destructeur pour la paix. Pour celui qui est dépravé, il est prêt à tout pour avoir ce qu'il veut. Il répand la souffrance et le désastre. Il détruit la paix par ses actions. Et finalement, au verset 18, le résumé, si vous voulez, de cette liste de l'apôtre Paul, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Il n'a pas la crainte de Dieu devant les yeux. Craindre Dieu ici n'est pas l'idée d'avoir peur de Dieu, c'est l'idée d'avoir une révérence, un respect pour Dieu. C'est de reconnaître qui est Dieu, d'avoir une révérence pour lui dans nos pensées et dans nos actions. Je veux tellement honorer Dieu dans ma vie que je vais m'empêcher de faire le mal parce que je veux honorer Dieu, j'aime Dieu. Eh bien, celui qui a le cœur dépravé, il n'y a aucune crainte de Dieu. Il n'y a aucun respect pour Dieu. Dieu, c'est comme si Dieu n'existait pas. Il vit sa vie à l'encontre de Dieu sans vouloir l'honorer et le respecter. Donc, ici, nous voyons dans notre nature notre incapacité de faire la volonté de Dieu. Notre volonté qui est perdue, qui est déchu, nos pensées, nos paroles, nos pieds, nos yeux, tout est dépravé, perdu. Éphésiens chapitre 2, verset 1, nous dit que nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Que peut faire un homme mort? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il sent. C'est la seule chose que fait un homme mort. Il sent. C'est la décomposition. Il ne peut rien faire par lui-même. Il n'y a aucune capacité de répondre à l'invitation de Dieu, de se repentir, de se tourner vers lui. Sans l'invitation et l'action de Dieu, l'être humain, l'humanité entière, est sous la déchéance, sous la perdition. Des fois, on parle de libre arbitre. Le libre arbitre de l'homme. Savez-vous ce que ça fait, le libre arbitre? Selon George Whitefield, le libre arbitre te conduira en enfer. Laissé à toi-même, tu t'en vas directement en enfer. Il n'y a aucune personne qui va aller au ciel à cause du libre arbitre. Spurgeon, quand on lui parle, Charles Haddon Spurgeon, le prince des prédicateurs, lorsqu'on lui parle du libre arbitre, il dit, j'ai entendu beaucoup parler du libre arbitre, mais je ne l'ai jamais vu. Parce que comme on a entendu, on est toujours esclave de quelque chose. On est toujours esclave. Et ici, Paul décrit l'esclavage de l'humanité entière devant Dieu, incapable de se sauver soi-même, incapable d'être en paix avec Dieu par lui-même. Au verset 19 et 20, nous voyons troisièmement et dernièrement la condamnation, le verdict qui est présenté par l'apôtre Paul, qui prend des notes, qui observe ce qui se passe dans les cieux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu. L'objectif ici, c'est que toute bouche soit fermée, que personne ne peut se défendre. L'avocat de la couronne a tellement bien fait son travail, écoutez-moi bien, il a tellement bien fait son travail que l'accusé est en silence. Il ne peut même pas ouvrir la bouche pour se défendre. Qu'est-ce que tu vas répondre au Créateur de l'univers lorsqu'il va montrer le film de ta vie? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment vas-tu te justifier devant lui? Bien, c'est pas de ma faute, c'est ma femme, c'est pas de ma faute, c'est mes parents, c'est pas de ma faute. À un moment donné, à quelque part, ça va être de ta faute. À un moment donné, chacun d'entre nous, nous allons rendre compte pour nos œuvres, nos péchés d'action, nos péchés en pensée, nos péchés en parole, nos péchés d'omission, les choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas faites, un jour, parce que je serai devant Dieu, qu'est-ce que je vais répondre? Tu pensais à qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je fais mon possible. Je fais mon possible. J'ai vraiment tout essayé de suivre ta loi. C'est vrai que tu as suivi ça, mais regarde tout ce que tu n'as pas fait. Le monde entier, chacun d'entre nous, juif, grec, québécois, tombe sous le jugement de Dieu. Et la loi ici, quel est le rôle de la loi? La loi ici révèle le péché de l'homme et démontre la perfection de Dieu. Ce qu'on a chanté, il est saint. La loi démontre que je ne suis pas capable de me sauver et que j'ai besoin d'un sauveur. C'est la ligne droite de la loi qui montre comment mon cœur est croche, tortueux. La loi ne nous justifie pas et ne nous sanctifie pas. La loi nous convainc et nous condamne. C'est le rôle de la loi. Comme un thermomètre, la loi indique la température spirituelle de nos cœurs. Comme un miroir, elle nous montre qui nous sommes vraiment. Elle nous parle de nos péchés et des conséquences dévastatrices de notre péché. Que faire avec un message pareil? Mon frère, ma sœur, que devons-nous faire avec un message pareil? Cher ami qui m'entend aujourd'hui, que faire devant une condition si déplorable, devant la destruction, la perdition, la dépravation de l'humanité entière? Et d'abord, personnellement, notre espoir ne dépend pas de nous-mêmes. Notre espoir dépend de la miséricorde plutôt que de la justice humaine. Notre espoir, frères et sœurs, dépend de la croix où la miséricorde a coulé pour moi, où le pardon de mes péchés a été opéré une fois pour toutes, où Jésus a pris mes pensées perverses, ma bouche sale, mes pieds qui font le mal, mes yeux qui regardent à la mauvaise place, qui ne craignent pas Dieu. C'est à la croix où la miséricorde de Dieu a coulé pour moi. Vous savez ce que ça veut dire, la miséricorde? La grâce, c'est un cadeau, c'est recevoir un cadeau qu'on ne mérite pas. Mais la miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. Et qu'est-ce que je méritais? D'après ce qu'on voit ici, la mort, la séparation de Dieu pour toujours. Deuxième application en conclusion. Oui, notre espoir est en Christ, mais deuxièmement, l'évangélisation, lorsqu'on parle autour de nous, rappelons-nous la dépravation des autres qui ont besoin de l'Évangile. Chaque personne autour de nous a besoin de l'Évangile. Personne ne sera sauvé s'il ne réalise pas son péché. Personne ne sera sauvé qu'au moment qu'il réalise qu'il ne contribue pour rien et qu'il place toute leur confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes sans espoir, sans Christ. Et nous ne pouvons sauver nous-mêmes, et en plus, on ne peut pas sauver personne. On ne peut pas manipuler personne. Il nous faut l'intervention de Dieu pour sauver, pour donner la vie éternelle. La conviction de péché est donc nécessaire pour recevoir l'Évangile de la grâce. Et je pense qu'on a deux bons exemples, parce qu'on a entendu le témoignage de Yannick, le témoignage de Jérémie dans les dernières semaines. La conviction de péché fait partie de leur témoignage. Si tu ne reconnais pas la dépravation de ton propre cœur, tu ne peux pas être sauvé. Il manque quelque chose. Ce n'est pas seulement croyez en Jésus, c'est repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Une autre implication, troisièmement, d'abord, oui, la miséricorde pour nous, l'évangélisation, mais aussi la véracité de la Bible est une autre application importante pour nous. Jamais l'être humain n'irait à ce point de se condamner lui-même. Jamais on ferait cela. Jamais on dirait des choses pareilles. Jamais l'être humain voudrait s'inculper de cette manière. La Bible est un miroir. La Bible dit les vraies choses. La Bible décrit des choses qu'on voit et qu'on entend autour de nous. La Bible est donc un miroir. Elle est vraie. Ce n'est pas seulement un conte de fées. Des fois, mes amis disent ça. Je parle souvent de mes chums d'hockey, tu sais, ils parlent de la Bible comme étant un conte de fées, où on me dit que c'est comme des histoires, mais je dis, c'est pas des contes de fées, c'est pas toujours bon. En fait, la Bible parle pas mal plus de péché, puis elle montre l'état du péché de l'homme et son besoin d'être sauvé. Mon frère, ma sœur, la Bible est un miroir, qu'elle guide nos vies et qu'elle nous guide aussi lorsqu'on veut parler de Christ autour de nous. La véracité de la Bible aussi nous montre, nous explique les difficultés que nous vivons dans le monde. L'absence de paix depuis le début de l'histoire de l'humanité, la présence de conflits, les guerres, la vengeance, c'est la dépravation du cœur de l'homme. Laissé à lui-même, l'homme apporte la destruction. Qu'est-ce qu'on fait avec la doctrine de la dépravation? Jeunesse, on était ensemble ce matin. Mais marie-toi avec un chrétien. Si tu n'es pas marié, marie-toi avec un chrétien. Pourquoi c'est important? Parce qu'on veut avoir les mêmes valeurs sur ce point en particulier. Si tu penses que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, eh bien, ça va changer. Ça change beaucoup avec celui qui pense que même ce petit enfant qui sort du ventre de sa mère est une petite boule dépravée qui pense à lui-même et qui se comporte de façon foncièrement égoïste. Je comprends que l'enfant n'a pas fait toutes les expériences, Mais nos enfants, frères et sœurs, sont dépravés. Ils sont perdus. Ils ont besoin de Christ. Ce n'est pas juste leur comportement qu'on veut changer. On veut aller plus loin que cela. On doit aller et leur présenter la bonne nouvelle de l'Évangile, le cœur. La raison que tu fais le mal, c'est parce que dans ton cœur, dans ton intelligence, tes paroles, tes pieds, tes yeux, t'es perdu. Tu as besoin d'être sauvé. Et je ne peux pas m'empêcher de terminer. Je vous demande d'aller dans Romains 3, verset 23. Je ne peux pas m'empêcher de terminer ainsi ce matin. Dans la section suivante, il faut revenir dans deux semaines, mais c'est trop fort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il y a de l'espoir. De l'espoir pour toi, mon ami, aujourd'hui. Il y a de l'espoir. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'invitation t'est offerte aujourd'hui. Oui, j'ai un cœur dépravé. Oui, je suis perdu. La grâce de Dieu est disponible pour celui qui se repent, qui croit en lui.